Chapitre 8. Sur le chemin de la ville, la route serpentait entre de grands chênes centenaires qui formaient un bois dense et sombre. Sous la frondaison qui occultait pratiquement le ciel, on avait du mal à distinguer le jour de la nuit, et dans la pénombre, les yeux rouges des morts brillaient encore plus fort. Gérald aurait donné cher pour que le trajet soit bien plus long. Même en se creusant la cervelle, il n'avait trouvé aucun moyen de prévenir les habitants. Et s'il courait, il n'aurait pas le temps de tout expliquer avant que le seigneur Arc et ses troupes arrivent. De toute façon, faute d'avoir vu de quoi il retournait, les gens ne le croiraient pas sur parole. Les deux souverains avançaient sur les talons du fossoyeur, la mort de Sith suivant son maître comme son ombre. Les Shuntuks venaient ensuite, le martèlement de leurs pieds nus faisant trembler le sol, et les morts animés marchaient parmi eux. La brume sombre enveloppait toute la colonne, comme si l'air était empoisonné par ces maléfiques envahisseurs. Au sommet d'une petite butte, Gérald jeta un coup d'œil derrière lui. Pour la première fois, il eut un aperçu du nombre de demi-humains qui le suivaient. S'il s'arrêtait où il était, il lui faudrait probablement la journée pour les voir tous passer, en supposant que ça suffise. La route n'étant pas assez large pour eux, les guerriers s'étaient déployés dans les bois, telle une marée prête à se déverser sur Inslay pour n'en laisser que des ruines. Avec leur démarche raide, les morts animés faisaient penser à des débris charriés par ce flot dévastateur. Le jardin des morts que Gérald soignait depuis si longtemps venait d'être moissonné par un roi spectral résolu à s'approprier ce qui lui appartenait. Au sortir du bois de chêne, juste après le sommet de la butte, les premiers bâtiments d'Inslay apparurent. Dans certaines villes, comme Saavedra par exemple, les constructions étaient en pierre. Bien plus modestes, celles-ci étaient en bois, un matériau qui ne manquait pas dans les terres noires. Parfois adossées à une haie de chêne, la plupart des maisons se dressaient des deux côtés de la route, comme si elles désiraient tourner le dos aux terres hostiles qui les entouraient. Les plus grandes, à deux niveaux, se serraient presque frileusement les unes contre les autres. Le premier niveau, très souvent, abritait la boutique et l'atelier d'un maroquinier ou d'un ébéniste, voire le magasin d'un boucher, d'un boulanger ou d'un herboriste. Bien entendu, les artisans et leurs familles vivaient à l'étage, le plus près possible, de leur lieu de travail. Il existait bien quelques rues latérales, mais ce n'était guère que des venelles menant aux modestes habitations à une ou deux pièces, des paysans qui s'occupaient des champs ou des animaux à l'extérieur de la ville. Inslay n'était pas assez grande pour avoir une auberge. Lorsque des marchands y passaient, les artisans leur permettaient en général de dormir dans leur boutique, sinon il leur restait la grande grange à l'autre bout de la cité. Plus loin, à l'ouest et au sud, en tout cas d'après ce qu'on disait, les habitants habitaient au milieu de leurs champs, dans des maisons appelées des fermes. Une solution pratique, car elle leur évitait d'avoir à venir tout le temps en ville, ces excursions étant réservées aux jours de marché ou de kermesse. Quand on vivait sur place, il se révélait plus facile de veiller sur les récoltes, de surveiller les troupeaux et d'entretenir les outils et les clôtures. Mais dans les terres noires, ces avantages ne pesaient pas bien lourd. Afin de se protéger, les gens, paysans compris, avaient tendance à se regrouper. Dans le même ordre d'idées, ils ne s'aventuraient pas seuls hors de la ville sans une bonne raison et s'enfermaient à double tour la nuit. Ces précautions ne serviraient à rien cette fois. Et la lumière diurne non plus. En ce jour, sous le soleil, le malheur venait frapper au cœur d'Inslay et rien ne pourrait l'arrêter. Sur la droite, des femmes occupées à étendre du linge devant une maison s'immobilisèrent, les yeux ronds. Puis elles coururent prévenir les autres de l'arrivée d'une colonne menaçante. Malgré le vacarme que faisaient les Shuntuks, les bruits de la ville jusque-là avaient suffi à couvrir leur approche, mais à présent ce n'était plus le cas. Partout, des artisans sortaient de leurs boutiques, des femmes mettaient la tête à la fenêtre et des passants tendaient le cou pour mieux voir, le même réflexe que celui qu'avait eu Gérald en entendant ce qu'il avait pris pour le tonnerre. Puis les mères appelèrent leurs enfants, qui revinrent en courant à la maison. Les volailles qui picoraient dans les rues, alarmées par l'agitation des gosses, s'éparpillèrent en criaillant d'abondance. Tandis que Gérald entrait en ville, les deux souverains et leur horde sur les talons, des habitants sortirent de leur maison où émergèrent des venelles, stupéfiés et inquiétés par ce qu'ils découvraient. Certes, Les visiteurs étaient bizarres et extraordinairement nombreux, mais ça ne se voyait pas encore assez à cause de la butte pour que ces gens puissent mesurer la gravité de la menace. À dire vrai, Gérald lui-même avait du mal à l'évaluer, mais lui, il en savait assez pour mourir de peur. Du coin de l'œil, il vit des silhouettes de Shuntuk entre les bâtiments. La manœuvre d'encerclement, aussi rapide que discrète, avait déjà commencé. Ainsi, personne ne pourrait s'échapper. Avec un peu de chance, cependant, certains citadins auraient eu le bon sens de filer avant qu'il soit trop tard. En tout cas, Gérald l'espérait. Mais à voir la réaction des habitants, il en doutait. Primo, parce qu'ils étaient saisis de stupeur, et secondo, parce que s'enfuir impliquait de s'enfoncer dans la forêt hostile des Terres Noires. Habitués à la protection de la ville et pensant que l'union faisait la force, très peu de citadins devaient avoir opté pour la fuite. Cette illusion de sécurité allait coûter très cher à bien des malheureux. Les manches retroussées parce qu'ils étaient en plein travail, des hommes dans la force de l'âge sortirent d'entre les bâtiments. Des costauds assez vigoureux pour ne pas se laisser aisément intimider. Pour la plupart, vétérans de la guerre contre l'Ancien Monde, ils avaient l'habitude des conflits. En toute hâte, ils venaient de former une garde civile. Tous portaient des armes, des épées pour l'essentiel, même si certains brandissaient une hache, un couteau, voire une massue. Toujours à cause de la butte, aucun de ses défenseurs ne pouvait voir la taille réelle de la colonne qui marchait sur les traces de Gérald. Un des anciens soldats, véritable colosse qui dominait presque tous les autres de la tête aux pieds, se plaça en tête du détachement. Levant l'épée qu'il avait rapportée avec lui de la guerre, une arme qui lui avait plus d'une fois sauvé la vie, il s'adressa à Gérald.
« Fossoyeur, que nous veulent les gens qui t'accompagnent ?»
Le seigneur Arc passa devant Gérald avant qu'il ait eu le temps de répondre. Quand ils l'aperçurent, un grand nombre de curieux debout devant chez eux reculèrent d'un pas, certains battirent même en retraite dans leur pénate.
« Les habitants d'Insley ne m'ont pas accueilli comme il convient, » annonça le seigneur Arc. « Comment ont-ils pu ne pas se prosterner devant moi? C'est une insulte impardonnable. »«
C'est le seigneur Arc, » précisa Gérald, espérant faire comprendre aux défenseurs que l'heure était grave. Le colosse hocha la tête, s'inclina et fit un signe à ses hommes qui s'agenouillèrent avec un bel ensemble.
« Bienvenue, évêque Arc. Si vous vouliez nous voir à genoux devant vous, vous voilà satisfaits. »« Pas encore tout à fait, mais ça viendra. »
Le colosse écarta de son front une mèche de cheveux empoissée de sueur et se releva. Tous ses compagnons l'imitèrent.
« Nous ne voulions pas vous offenser. » Et nous ne cherchons pas les ennuis. À présent, reprenez votre chemin en paix. Nous n'avons rien contre vous. »
Il fit un geste circulaire avec son épée.
« Contournez notre paisible ville et faites bon voyage. »
Le dos contre la façade des boutiques, ou pressé dans l'ombre des bâtiments, les autres citadins tentaient de se faire tout petits, laissant à leur garde civile le soin de les défendre. Anis Arc tourna la tête pour croiser le regard du roi spectral.
Je crois qu'il est temps de leur montrer à quoi ils sont confrontés.
En guise d'ordre, Sulakan se contenta de sourire. Lui obéissant aussitôt, les cadavres récemment déterrés qui se tenaient au milieu des Shuntuk avancèrent pour venir se placer au premier rang, l'un d'entre eux bousculant même Gérald pour lui passer devant. Aussi terrifiés que les autres par la vue des morts ranimés aux yeux rouges, les défenseurs ne cédèrent pourtant pas un pouce de terrain. Le genre de confiance et de courage typique de la jeunesse, surtout quand elle ignore ce qui l'attend.
Le colosse embrocha le premier mort ranimé qui arriva à portée de son arme. Aux trois quarts décomposés, ce cadavre en pestait assez pour faire s'étouffer une bonne moitié des braves défenseurs. Quand la lame eut traversé son torse, il continua à avancer, puis se débattit sauvagement et finit par arracher des mains du colosse la poignée de son épée. À une vitesse incroyable, le revenant saisit le courageux vétéran à la gorge d'une seule main.
De l'autre, il lui prit le bras droit, tira et le lui arracha de l'épaule sans efforts apparents. Tout le monde, Gérald comprit, en écarquilla les yeux de stupéfaction. Aucun être vivant ne pouvait avoir une force pareille, et aucun revenant non plus, sauf si un pouvoir surnaturel l'animait. Plusieurs autres défenseurs chargèrent et lardèrent le mort ranimé de coups d'épée. 6 ou 7 lames s'enfoncèrent dans son torse sans lui faire plus d'effet que la première. Sans broncher, il laissa tomber l'ancien soldat désormais manchot. Alors que les autres continuaient à le frapper, il se baissa, ramassa le malheureux, le tenant par une cheville, le fit tournoyer autour de lui, puis le propulsa contre une façade qui se craquela sous la violence du choc. Mort sur le coup, très probablement, le colosse glissa mollement vers le sol. D'autres morts, anciens comme récents, fondirent sur le petit groupe de défenseurs. Pourtant maniés par des hommes forts et entraînés, les haches et les épées ne parvinrent pas à abattre un seul attaquant. La confiance cédant sous le poids de la réalité, les jeunes hommes se débandèrent en hurlant de terreur, mais toutes les possibilités de fuir leur étaient déjà barrées par des cadavres ambulants qui les avaient discrètement encerclés. La bataille fut brève, et le résultat sans appel. Tous leurs défenseurs gisant à terre, morts pour la plupart, les citadins comprirent qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et les Shuntuk ne s'étaient même pas encore mêlés de l'assaut. Alors que le seigneur Arc, l'empereur sous la canne, la mort de Sith et les guerriers regardaient le spectacle sans broncher, les citadins se jetèrent à genoux pour implorer le Créateur, crièrent de terreur ou tentèrent d'implorer la clémence du seigneur Arc. Beaucoup tentèrent en vain de fuir ou de se cacher. La lueur verdâtre enveloppant son corps spectral. Sulakhan se tourna vers la marée de demi-humains. Un seul mot suffit à déclencher la curée.
Festoyer !